Bonjour à tous et bienvenue sur Comics Weekly, épisode 29, je suis Steve.
Et je suis Mister René Bunny.
Les sorties du 8 décembre.
Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une petite dédicace.
Ok, d'accord, très bien. Voilà. Le message est passé, je pense, j'espère. Tu parles à des vaches Skrull, en fait, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Voilà. De Skrull, il n'en sera pas question d'ailleurs dans cet épisode, enfin je ne pense pas.
Non. Si, peut-être.
Ou pas. Ouais, peut-être. Ouais, on verra bien. Ça ne veut rien dire. C'est pathétique.
C'est très bien comme début, c'est très bien. Ça commence très fort.
Donc comme je disais, ce sont les sorties du 8 décembre, les sorties VO bien évidemment, puisque Comics Weekly. Et on va passer, comme toujours, au numéro de la semaine, épisode 29. Donc quel comics marquant qui porte le numéro 29. Pour ma part, ce sera le Green Lantern volume 2 numéro 29 qui date de 1964.
Donc, quelle surprise.
Je vais taper dans le vieux. Ouais, mais quand tu vas savoir pourquoi, c'est parce que c'est la première apparition de Black Hand.
Ah, d'accord, Black Hand dont on entend beaucoup parler en ce moment. Mais pourquoi ?
Oui, puisque c'est le personnage majeur, en tout cas un des personnages majeurs du crossover Blackest Night qui sort en ce moment en français.
Exactement, que vous devez tous acheter. Enfin, vous devez tous acheter. On vous le conseille fortement en tout cas puisque c'est très bon. C'est dans DC Universe 59, précisons-le, en français.
On vous y oblige, c'est une obligation.
Voilà.
Par contre, à savoir que Black Hand, à sa première apparition, n'avait rien à voir avec le Black Hand que l'on connaît aujourd'hui. C'était un personnage assez ridicule. Alors, c'était déjà le même costume, hein, pas de souci là-dessus. Et il avait ses deux mains, à l'époque.
C'est une importance, quand même.
Et c'était un personnage ridicule, en fait, qui ne vivait que par des clichés, qui passait son temps à citer des proverbes, ce genre de choses. Et qui passait aussi, et là c'est une chose assez intéressante, passait son temps à casser le quatrième mur. Mais vraiment, il s'adressait tout le temps au lecteur.
À deux mains, en plus.
À deux mains, oui, voilà, si tu veux. Même avec les pieds aussi. Mais par exemple,
non, mais ça sert d'avoir ses deux mains, ça sert à plein de choses. C'est sûr qu'avec une main, on fait moins de choses, quoi.
Voilà. Lors de sa première apparition, par exemple, c'est lui qui raconte ses origines au lecteur, en s'adressant directement au lecteur. C'est un procédé narratif assez étrange pour l'époque, je trouve.
Mais il s'appelait Black Ends ou Black End, du coup ?
Black End.
Oui, d'accord.
Parce que son nom, c'est William End.
Ah, bah oui.
Et donc qu'il était le mouton noir de la famille, le Black Sheep of the Family. Donc voilà, Black End. C'est comme ça qu'il a trouvé son nom. Donc voilà, un numéro qui a dû, j'ai pas vérifié les cotes, mais qui a dû sacrément décoller suite à Blackest Night. Puisque première apparition d'un grand
ami. Oui, certainement.
Voilà, à toi, Benny.
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un vieux numéro, puisque c'est le Détective Comics numéro 29, les amis. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la première apparition de Dr. Death. Car tu vas me dire, Dr. Death, mais c'est quoi ce méchant tout pourri ? Eh bien, c'est quand même l'un des premiers gros ennemis de Batman, puisque je crois, hein, sans dire de bêtises, alors corrigez-moi encore si je me trompe, mais je crois que
corrigez-le, il aime ça.
Oui, voilà, je crois que c'est le premier ennemi qui apparaît, enfin le premier ennemi récurrent, puisque en fait il est dans le 29 mais il est aussi dans le 30. Et alors tu vas me dire, oh mais c'est tout pourri. mais voilà, ça a quand même son importance, quoi. C'est vraiment le premier ennemi de Batman qui, dès le début, enfin que Batman affronte à plusieurs reprises dès le début de sa carrière. Je crois que c'est le seul pendant un moment qui refait une apparition, le Dr. Death. Et au fait, il devient vraiment un personnage connu parmi sa rogue galerie lorsque Jerry Conway le réintroduit dans Batman 345 et Detective Comics 512 en 82. Dr. Death, il faut attendre tout ce temps-là.
Voilà. Quelle belle année, 82.
Eh ben oui, mais moi je préfère 83, personnellement. Je te demande bien pourquoi. Mais toujours est-il que retour de Dr. Death en 82, et après on le reverra à plusieurs reprises, par exemple dans le Batgirl 42-44, et le numéro 50, qui date de 2003-2004.
À l'époque avec Cassandra en Batgirl.
Et oui, celle dont on voyait absolument pas le visage, qui était totalement en cuir, quoi. Voilà. Version.
Ne le dis pas.
Tu. Voilà. Et de toute façon, c'est trop tard, je l'ai dit. Et on revoyait aussi le Dr. Death, par exemple, dans War Games. Il travaillait pour Black Mask. Et on va le revoir, il me semble, d'ailleurs, Dr. Death, très bientôt.
D'accord.
Voilà. Donc c'est quand même un ennemi, mine de rien, super classique, puisque c'est le premier vrai ennemi classique, au final. Puisqu'il apparaît avant le Joker, etc.
Oui, bah, c'était le premier ennemi, c'était pas un simple cambrioleur ou un simple tueur qui est mis en prison et qui est tout de suite oublié
Ah, c'est
l'histoire d'après,
le
quoi.
premier à revenir, finalement. Voilà, le premier à revenir. Et
Le
c'était pas
premier
mal.
super vilain en fait qu'affronte Batman, puisque finalement c'est ça.
Tout à fait, c'est ça.
Eh ben, très bien, bonne trouvaille. On va passer aux news maintenant.
Et oui, alors les news, il y en a quand même quelques-unes cette semaine. On va commencer par Marvel, peut-être? Marvel, donc, on a pu voir la couverture d'Amazing Spider-Man 654.1. Pourquoi .1? Parce que je te le rappelle qu'à partir de certains numéros, on va te mettre un petit .1 et ça voudra dire que c'est un bon jumping point pour commencer à lire la série. Donc voilà, donc le 505, le 654, pardon, nouveau Venom
Ouais.
qui arrive dans le Amazing Spider-Man 654, et du coup, nouvelle série Venom à partir de mars. Et là, attention au scénario, on retrouve Rick Remender et au dessin Tony Moore pour cette nouvelle série Venom. Alors, qui sera le nouveau Venom? Eh bien, mystère, mystère,
Ah,
mystère.
il y a quelques noms qui circulent sur le net, des interrogations des gens, mais voilà, on vous laisse vous faire votre propre idée.
Ouais.
Rick Remender, Tony Moore, c'est Frankencastle, par exemple, c'est aussi Fear Agent.
Mais c'est aussi X-Force qui est pas génial.
Bah ça c'est Rick Remender tout seul, hein. Tony Moore n'est pas sur
Ah
Avengers
oui,
X-Force.
exactement, bien sûr, oui. Oui. D'ailleurs, Frankencastle, si son nouveau Venom ressemble à du Frankencastle, ça risque d'être bizarre.
Ah, ça risque d'être assez bon quand même. Apparemment ça va être un ton assez différent, une orientation assez espionnage sur la série, donc faut voir ce que ça peut donner, quoi. Le costume du Venom par Tony Moore est assez étrange.
Bah,
Un
d'ailleurs,
Venom
tu...
avec un flingue, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, tu vas gueuler, tu vas faire « Mais non, non, mais c'est pas possible !» Mais moi, je verrais bien ce nouveau Venom, justement, dans X-Force.
Faut voir le personnage qui il est déjà, à moins qu'on nous cache qui il est, peut-être. Peut-être aura-t-on ce plaisir-là de ne pas savoir qui est le Venom tout de suite, qu'on n'a pas eu avec le Hobgoblin, par exemple.
Et qu'on n'a pas eu avec Venom, de toute façon, puisqu'on a toujours su qui était Venom d'emblée. Dès qu'il y avait un nouveau Venom,
C'est
on
vrai.
savait qui il était. Donc ce serait
C'est
la
vrai.
première fois qu'on a un Venom mystère, quoi.
On verra bien. En tout cas, moi je sais pas, j'attends de voir parce que bah, l'équipe créative me plaît bien, quoi.
On continue avec Thanos Imperative Devastation. J'ai vu un petit teaser sur lequel on peut voir que bah, il risque d'y avoir des pertes, quoi. Voilà. On va pas en dire plus. On va pas dire
Et
qui.
quand on lit un tout petit peu ce dont tu vas nous parler après, on arrive à comprendre, je pense, qui va disparaître.
Oui, bah alors justement, la transition, c'est que en mars commence une mini-série, Annihilators, par Dan Abnett et Andy Lanning, donc très bonne
Ouh,
nouvelle,
ouais.
accompagné au dessin de, alors attention, de Dan Heng Uwat, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais on va le dire comme ça.
Oui, voilà.
Voilà. Et donc bah, bonne nouvelle, puisque à chaque fois qu'on croit que c'est fini, il y en a encore.
Alors, une nouvelle mini-série cosmique par donc les maîtres du cosmique quand même, Dan Abnett et Andy Lanning, et faut voir qui on retrouve dans l'équipe quand même, parce que ce sont ni plus ni moins que des Cosmic Avengers, grosso modo, hein, c'est comme ça que qu'Ad Abnett et Andy Lanning les appellent.
Qualifie.
Ouais. Donc on a le Silver Surfer, Beta Ray Bill, Quasar, Gladiator et Ronan the Accuser.
Voilà, donc une bonne équipe de tarés quand même.
Une bonne équipe de bourrins. Voilà. Et
Oui,
quand on
mais...
lit un tout petit peu ce qui, enfin les infos qui sont déjà parues, on arrive à comprendre grosso modo ce qui va disparaître. C'est dommage.
Ouais, mais c'est un petit peu une équipe qui me rappelle le Silver Surfer de Mars, je crois que c'était Mars au scénario. Où il s'était forgé une espèce d'équipe comme ça, je crois, avec Ronan, avec d'autres personnages. Bon, je sais pas si ça dit quelque
Ouais, ça
chose.
revient dans les années 90, ouais.
Oui, ça date des années 90, ça avait été publié en France dans Nova, essentiellement.
À savoir que cette mini-série Annihilators coûtera 4,99$ parce que ce sont des épisodes doubles. On aura donc deux histoires, l'histoire sur Annihilators, mais aussi l'histoire sur Rocket Raccoon et Groot, qui finalement avait été annoncée comme une mini-série au départ à la San Diego Comic Con, et qui finalement sera le backup, mais une histoire complète quand même, enfin si on peut appeler ça un backup, en gros ce sera deux histoires dans le même numéro, qui fera partie donc de cette mini-série Annihilators. Ce sera donc Dan Abnett, Andy Lanning au scénario, et au dessin on retrouve Timothy Green 2, avec des variantes de cover de Mike Mignola,
Ok,
pour la
oui,
mini-série quand même.
dont d'ailleurs une variante, je crois, avec Rocket Raccoon et Groot.
Je crois.
Qu'on avait pu
Donc
apercevoir et on avait pensé à l'époque que c'était une mini-série Groot Rocket Raccoon, mais en fait, ça servira pour ça.
Bah ça devait être prévu comme ça à la base,
Oui.
mais finalement, ils ont foutu les deux trucs dans le même numéro. Donc pour 4,99, vous avez l'équivalent de deux mini-séries.
Un
C'est
petit
pas
peu
mal.
comme Window Maker, qui n'était pas prévu, comme c'est sorti à présent. Enfin, bref, on en reparle tout à l'heure. Toujours pour Mars, on continue. Décidément, le mois de
Pour
mars, il y
Run,
a beaucoup de
donc.
choses.
Run Mars.
Oh
Ouais,
putain.
première vanne de ce comic weekly.
Ouf, voilà, elle
Magnifique.
était violente celle-là, hein. Elle était aussi
Ah bah
violente que
c'était.
l'équipe justement dont on vient de parler. Donc, encore une annonce pour Mars, avec une mini-série en 5 intitulée Ronin. Alors, pourquoi en mars? Puisque au fait ça va sortir durant tout le mois de mars, puisque ce sera hebdomadaire, comme série, toutes les semaines.
Marvel en fait de plus en plus des mini comme ça.
Voilà, donc une mini-série en 5 par Peter Milligan avec différents artistes, en fait un par partie, Tom Coker, Talibor Talagic, Laurence Campbell, Goran Parlov et Lenadro Fernandez. Voilà, donc
Alors je les
bah,
connais pas tous, hein.
non, moi non plus. Enfin, deux noms aussi, Laurence Campbell, je crois, Goran Parlov aussi.
Bien sûr.
Talagic, on en avait parlé déjà. Bref, donc, est-ce qu'on en saura plus sur Ronin à ce moment-là, ou est-ce qu'on va déjà avoir des révélations dans Widowmaker? Bah, de toute façon, on en parle tout à l'heure.
Ah, mais ça n'a rien à voir avec Ronin, le personnage, puisque sur la couverture, on voit bien que c'est Wolverine en samouraï, en fait.
Alors attention, parce qu'il y a différents personnages qui vont être concernés, Wolverine, Psylocke, Punisher, Hulk et Deadpool. Donc à mon avis, un personnage par partie. Peut-être qu'ils vont faire face à chaque fois à Ronin, en fait, dans chacune des parties.
Ah peut-être, je sais pas. En tout cas, ça me permet de rebondir sur une autre news qui concerne Marvel. Marvel a annoncé qu'ils allaient descendre des titres qui étaient initialement prévus à 3,99$ au prix de 2,99$. Bonne nouvelle pour les lecteurs, puisque ça leur coûtera moins cher. Et puis bah on se base un petit peu sur le modèle DC qui redescend tous ses comics à 2,99$, en coupant un certain nombre de pages, c'est certain, mais voilà. Faut essayer de jouer la concurrence un maximum. Sauf que là où c'est une très mauvaise annonce, c'est que, en tout cas, ça commence en février, ce sera que des mini-séries. En tout cas, pour le moment. Donc on a dans cette liste Captain America, El Hydra, Wolverine and Jubilee, Arcade Death Game, Hawkeye Blind Spot, qui fait suite donc à Widowmaker, et Five Ronin.
Voilà,
Hein,
celui
donc,
dont je viens de parler.
que des mini-séries qui sont à 2,99. Après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense que 2,99, c'est de toute façon le prix pour une mini-série. Hormis peut-être Annihilators, puisqu'il y a quand même deux épisodes dedans. Hein, voilà,
Ouais.
donc c'est quand même du 50 pages. Mais une mini-série classique ne devrait pas dépasser 2,99, puisque si on le sort en mini-série, c'est que généralement, ça n'a pas de gros potentiel pour être un ongoing. Donc le mettre à 3,99, c'est suicidaire.
Oui,
Bon,
non, mais c'est vraiment
ça reste mon
la
avis, hein.
fausse, la fausse annonce, quoi, la
Voilà,
fausse
ça c'est
caisse.
vraiment pour faire parler d'eux, ouais. Ça c'est clair et net. Donc pour moi c'est voilà. Marvel essaye de faire style, on est en concurrence DC, voyez, nous aussi on fait des comics à 2,99, mais bon. C'est un petit peu ridicule à mon goût. Ok, rien de plus à rajouter là-dessus, hein, pour ma part, je crois avoir tout
Donc,
dit.
on va passer chez DC, peut-être.
Ouais.
Avec une annonce, alors je ne sais pas si tu as entendu parler de la série Milestone Zombie, non pas Zombie, Zombie, avec un
Zombie, oui,
X.
qui était un personnage de l'univers Milestone, oui.
Voilà, par John Rosum et Rosum, d'ailleurs. Eh bien, on a appris le nom de l'artiste, et ce sera le fameux Fraser Irving qu'on a pu voir sur Batman récemment. Donc voilà, il y a un style assez particulier. Dont personnellement je ne suis pas forcément très très fan, mais je sais que par exemple Kiwi adore, donc bonne nouvelle
Ah,
pour
c'est
ceux
pour toi,
qui aiment.
Kiwi.
Oui, voilà, c'est pour toi Kiwi. Fraser Irving arrive sur Xombie. Xombie, est-ce qu'on va l'avoir en français? Alors ça, mystère.
Absolument pas, aucune chance à mon avis, puisqu'on n'a jamais eu quoi que ce soit de l'univers Milestone, si c'était des épisodes dans la JLA, parce qu'ils publiaient le run de la JLA. Ça m'étonnerait qu'on ait des personnages Milestone maintenant, mais enfin bon, on
Oh
sait
ben,
jamais, hein.
il y aura peut-être une maison d'édition française qui rachètera un jour les droits de Zombie et qui nous publiera ça.
Bah il faudrait que Panini n'ait plus les droits d'essai pour ça.
Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, ils peuvent pas. Oui, c'est vrai.
Voilà.
Voilà.
Donc
C'est
c'est pas
dit.
près d'arriver.
Effectivement. Eh bien ensuite, j'ai une autre news, mais je crois que je vais te laisser en parler.
Oui, alors, pour les fans de métal, et de comics aussi, mais aussi les fans de métal, Scott Ian, le guitariste de Anthrax, bon, les métalleux sauront de quoi je parle, avait écrit un comic en...
Ah, c'est Stallone.
avait écrit un comic en 2009, Lobo Highway to Hell, qui était une mini-série en deux, en prestige format. Eh bien, il revient sur The Demon.
Sur The Demon, oui, Etrigan,
ouais,
oui.
Voilà. Etrigan, le personnage de Kirby. Donc, ce sera toujours avec Sam Keith au dessin. Ce sera toujours en prestige format, apparemment. Et donc, ça devrait être en deux parties aussi, hein, puisqu'il a
deux épisodes, ouais.
Le même format. Donc voilà, donc bon, faudra voir ce que ça donne. En tout cas, un gros métalleux sur The Demon, c'est pas étonnant, quoi. Après Lobo, The Demon, c'est
enfin,
ça
gros
reste
métalleux,
dans le même schéma, quoi.
On avait dit pas le physique, Steve.
Voilà, donc c'est plutôt cool.
D'accord, bah, très bien. Bon, eh
si
bien,
t'avais autre chose à ajouter là-dessus, je ne sais pas.
Pas sur DC, on va partir du côté de l'indé pour finir cette salve de news. La grosse nouvelle en ce qui concerne le comics indé cette semaine, c'était le départ de Mark Waid, qui quitte Boom Studio en tant qu'éditeur en chef. Il quitte ses fonctions d'éditeur en chef, il quitte pas complètement Boom Studio, il continuera à écrire Irredeemable, bien sûr.
Irredeemable, Incorruptible aussi, ainsi que la série The Traveler, je crois, qu'il écrit pour... ouais, The Traveler, qu'il écrit sous la direction de Stan Lee.
Exactement. Enfin, pas sous la direction de Stan Lee forcément, mais disons que c'est un concept de Stan Lee... Voilà, cette fameuse gamme de super-héros comme Soldier Zero par Paul Cornell et puis les autres. Effectivement, donc il continue à écrire, bien sûr, mais pour avoir un peu plus d'indépendance, et bien justement, il quitte son poste d'éditeur en chef.
Éditeur en chef ainsi que Creative Officer, parce qu'il était aussi Chief Creative Officer chez Boom.
Oui.
Il quitte les deux, en fait.
Voilà. Et mais sinon, justement, il y a quelqu'un qui a été nommé éditeur en chef pour Arden Comics. Alors, Arden Comics, est-ce que tu connais Arden Comics déjà?
Absolument pas, ça ne me dit rien du tout.
Arden Comics, il faut savoir, c'était J.M.D. Matisse qui était l'ex-éditeur en chef de cette compagnie, qui font le comics, alors par exemple, il y a Phoenix, je ne sais pas si tu as entendu déjà parler de Phoenix.
Jamais.
Minx, non plus, tu vas me dire.
Le nom me dit quelque chose, mais je confonds peut-être avec autre chose.
Il y a Wolf, The Green Ghost également, The Green Ghost, qui ressemble un petit peu à... comment s'appelle-t-il d'ailleurs? Moon Knight, voilà, je cherchais. Moon Knight, c'est un espèce de mélange entre Moon Knight et Batman. Flash Gordon aussi, qui est publié chez eux.
D'accord.
Voilà.
Je ne connais absolument pas.
Donc voilà, donc bon, une maison d'édition pas forcément la plus connue. Mike Grell a été nommé donc nouvel éditeur en chef.
Putain,
Mike
alors Grell. Là, ils ont été le chercher celui-là.
Oui, Mike Grell qui avait écrit par exemple
Warlord.
Iron Man.
Warlord, c'est le bébé de Mike Grell, c'est Warlord.
Oui, Warlord aussi. Mais,
ainsi que Green Arrow.
Green Arrow, il avait fait du Iron Man il y a quelques années chez Marvel. Je sais pas si tu t'en souviens, mais...
Pas du tout.
Je crois que c'était la période où Iron Man ressemblait un petit peu à... Enfin, il avait une armure un petit peu à la manga, et il y avait une couverture notamment où il faisait un espèce de Kamehameha, c'était assez space.
Et puis il a son projet personnel aussi, que je me rappelle plus le nom, je crois que c'est John Sable ou un truc comme ça, mais je me rappelle plus le nom exact, donc voilà.
En tout cas, voilà, Mike Grell est... Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est éditeur en chef de Arden Comics. Arden Comics, donc, une maison d'édition à découvrir. Pas en français, pour le moment. mais en tout cas, voilà.
À découvrir quelque part. Dans un
À découvrir, parce que moi, je ne connaissais pas non plus, mais ça m'a permis, justement, de découvrir ça. Cette annonce m'a permis de découvrir ces titres. Bon, bref, donc, continue.
Une petite dernière... À moins que tu en aies encore d'autres.
J'en ai une.
Bah, vas-y, alors.
Alors... On sait quel va être le futur projet de Robert Kirkman. Robert Kirkman qui a un projet par mois. Eh bien, il en a un autre. Son futur projet avec Jason Howard au dessin, c'est Super Dinosaur.
Ah.
Super Dinosaur. Alors, bon, bah, voilà. Je crois qu'il a accordé une interview, d'ailleurs. Alors, je pourrais mettre le lien, mais... Très le lien, il faudrait que j'y pense. Voilà, sur Super Dinosaur, sa nouvelle série, ça a l'air assez fun. Avec donc,
comme tout projet Kirkman, hein, de toute façon.
Oui, voilà, ça a l'air assez décalé, assez déjanté. Enfin bon, voilà, encore une série que je pense que je lirai au moins le premier, parce que si c'est aussi bon qu'Invincible ou que Guardians of the Globe, ça m'intéresse.
Ok, très bien. Je termine avec une news pseudo indé, on va dire, puisque Alex Segura, qui s'occupait d'essai de Source, qui est le blog où toutes les infos d'essai étaient parues, il était la personne en charge des relations publiques en fait chez DC, a quitté son poste. Presque un an de bon et loyaux service, ou peut-être un peu plus même, je ne sais plus. Du coup, il a quitté, il a fait un petit post sur The Source, où il disait au revoir, il expliquait que voilà, il allait passer à autre chose, qu'il avait d'autres projets, mais qu'il attendait un petit peu quelques jours avant de les annoncer. Ça y est, c'est annoncé. Il va devenir le Director of Publicity and Marketing pour Archie Comics.
Ah d'accord, quand même.
Voilà. Donc voilà, DC 1D, quoi.
Ok.
Donc bah on lui souhaite bon courage parce que c'est quelqu'un qui fait un énorme job et qui a énormément de talent.
Bah écoute, je lui souhaite bon courage. Hein. Voilà. Nous lui souhaitons.
C'est quand même lui qui nous abreuve de news sur tout ce qui sortait DC. En tout cas à l'époque, c'était lui, enfin jusqu'à il y a une semaine, c'était lui qui nous abreuvait de toutes les news DC, quoi.
Et est-ce qu'on a le nom du remplaçant? Eh bien, c'est Rick Johnson, le remplaçant.
Je ne sais pas. J'ai pas été voir, d'ailleurs, qui le remplaçait. J'avoue.
Ok. Bon, bah, écoute,
bien, après cette,
news, hein.
Cette énorme plage de news, on passe à la double review de la semaine. Widowmaker numéro 1 sur 4, nouvelle mini-série, écrite par Jim McCann, dessinée par David Lopez, ancrée par Alvaro Lopez. C'est donc le fameux crossover entre Black Widow et la série Hawkeye et Mockingbird, qui devait avoir lieu, mais comme les deux séries sont arrêtées pour faute de vente, eh bien finalement, on a le crossover dans une mini.
Oui, puis on pensait à un moment donné, enfin je pensais à un moment donné, puisque j'avais vu cette info qui s'est avérée fausse finalement, que en fait cette mini-série d'ailleurs devait disparaître au profit d'une autre, et bah finalement non.
En fait, ouais, c'était par rapport à Hawkeye Blind Spot, et Hawkeye
Exactement.
Blind Spot sera la suite, enfin c'est ce qui viendra après
Exactement.
Widowmaker.
Oui.
À savoir que Widowmaker sortira en 2 mois, même s'il y a 4 épisodes, il y a 2 épisodes en décembre, 2 épisodes en janvier. Voilà, ça c'est dit.
C'est dit, mais à coup pas donc, parce que. Pardon. Widowmaker n'aurait pas lieu, et puis nous l'avons aujourd'hui.
Donc, on va passer à l'histoire. On découvre un ancien nouveau personnage. On va dire
non,
ça comme
oui.
ça.
Enfin, c'est le retour de. On va le dire, c'est le retour de Ronin.
Oui, de toute façon, on peut pas faire autrement. Ça avait déjà été annoncé à l'époque comme quoi Widowmaker serait le début, le point de départ de ce nouveau Ronin. Qui n'a rien à voir avec la précédente incarnation. Hein.
Bah qui a l'air super dangereux. Puisqu'il y a une espèce de body count durant tout le comics, et il en a déjà un sacré paquet à son actif alors qu'il vient à peine de commencer ses activités.
C'est-à-dire que la première fois où on voit le body count, on a déjà le nombre cumulé des personnes qui viennent tuer dans les premières pages, mais avant le comic, il y en a 42, et c'est bien marqué, de personnes dont on est sûr qu'il a tué, donc ça se trouve, il y en a peut-être plus.
Exactement, donc, ouais, c'est ça.
Voilà, il commence à 42, je crois qu'il finit à 84. Si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Donc en l'espace de 22 pages, il expose un bon record.
Donc il est méchant, quoi. C'est vraiment un gros méchant.
Ouais. Et donc, Hawkeye, qui avait reçu une liste des mains de Captain America, comme quoi certains espions étaient en danger, se référait à Hawkeye Mockingbird 6, le dernier épisode de la série, part enquêter sur ces fameux espions qui sont en danger et qui meurent les uns à la suite des autres.
Et ils vont en Russie.
Et bien sûr... rencontre Black Widow, puisqu'elle fait partie de cette histoire, qui elle aussi enquête sur la même chose. Mais voilà, tous les deux ont des sources différentes, et comment ça se fait qu'ils se retrouvent au même endroit alors qu'ils ont des sources différentes?
Voilà. Est-ce que Black Widow est la nouvelle Ronin? Ce serait drôle, mais je ne crois pas.
Bien sûr, comme tous bons américains qui... Enfin, en tout cas, super-héros américains qui se retrouvent en Russie, ils font face aux Supreme Soviets.
Oui, alors là, franchement... Le cliché, hein, c'est vraiment la partie qui m'a le plus saoulé, au fait. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, non, encore, oh là là, quelle perte de temps. Là, c'est vraiment une perte de temps pour moi, ça.
Bah, en fait, ils viennent arrêter Hawkeye, puisqu'ils veulent mettre la main sur Ronin.
Oui,
et comme Hawkeye était Ronin. Oui. Voilà, c'est ça.
Exactement, oui.
Mais
oui,
il s'en défend bien vite.
Oui, il s'en défend bien vite, mais j'espère qu'on va pas avoir droit à la sempiternelle confrontation et au sempiternel combat entre les deux, parce que... les équipes, parce que c'est chiant.
Il y a des chances.
Bah, c'est du remplissage, quoi. Franchement, pour moi, c'est du remplissage, ce passage.
Bon, en tout cas, ça commence dans un ton beaucoup plus sombre que Hawkeye et Mockingbird l'étaient. Hawkeye et Mockingbird avaient un ton quand même assez léger dans l'ensemble. Là, on est même définitivement dans un comic beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Il y a vraiment une ambiance espionnage, mystère, assez omniprésente. Je sais pas, ça donne quelque chose d'assez sympa, c'est vraiment du comic d'espionnage, quoi.
C'est vraiment du comics d'espionnage, c'est assez sombre, et il y a cette mystérieuse identité du nouveau Ronin qui reste à découvrir, et c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé, moi.
Mais moi, le problème, c'est que Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me gêne dans cette mini. Peut-être le côté un peu trop facile de Black Widow qui se ramène sur les lieux. J'ai l'impression que c'est un peu forcé comme rencontre. Alors, je sais pas. Il y a quelque chose vraiment qui m'ennuie un petit peu. Et donc, pour le moment, ce sera qu'un check-it. Pour moi, en tout cas. C'est sympa. Allez voir. Mais pour moi, c'est pas un bail absolu, quoi.
Ah, sauf si Black Widow est mêlé à tout ça, en fait.
Ben, je sais pas.
Faut voir. Moi, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. J'ai même préféré, au fait, cette première partie à ce que j'avais pu lire de la mini-série par
The Reunion,
Jim McCann.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Ça s'appelait The Avengers The Reunion, non?
C'est ça.
Oui. Ben voilà, j'ai préféré ça. J'aime bien ce côté sombre. J'aime bien le mystère autour de Ronin. Donc, pour moi, c'est un bail. Pour le moment, après faut voir où ça va, hein. Si après ça décolle pas et qu'on n'en sait pas plus à la fin de la mini, c'est sûr que je raviserai mon avis.
Bah, comme je dis, j'aime bien, mais il y a quelque chose qui me gêne et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et voilà, donc c'est pour ça que ce sera qu'un check-it. En même temps, l'avantage, c'est que vous aurez pas très longtemps à attendre pour cette mini, puisque dans 2 semaines sort la prochaine partie, voilà, c'est une mini qui va quand même aller assez vite. Reste à voir si elle sera de bonne qualité. En tout cas, on nous a promis que Ronin serait une grande menace pour le Marvel Universe par la suite. On verra bien.
Oui, qu'il allait prendre beaucoup d'importance. Donc, peut-être, est-ce que c'est effectivement un personnage déjà important et réputé à voir qui c'est.
Bah, moi, tu vois, franchement, allez, wild guess comme ça. Bon, sauf que je sais que c'est pas possible. Mais j'avais dit à l'époque que je pensais que ce serait peut-être Daredevil, tu vois. On sait très bien maintenant que c'est pas possible.
Oui.
Mais en revanche, peut-être serait-ce Bullseye ressuscité.
Ah oui. Oui.
Parce que rappelle-toi, il avait pris l'identité d'Hawkeye. Pendant Dark Reign. Et là, le fait qu'il prenne l'identité de Ronin alors qu'Hawkeye a repris son identité, ce serait, tu vois, vraiment pour le faire chier, quoi.
Ouais. Ouais, ouais, mais pourquoi pas.
Je,
mais en même temps,
je ne pense pas que ce soit ça, mais ça pourrait être drôle.
Ça pourrait. Bah, vraiment, ça dépend. Voilà, à voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, pour le moment, pour moi, c'est plutôt un bail, plutôt une bonne surprise.
Ok, bien. Bon, allez, on va passer au review solo. Premier review solo, c'est moi qui m'en charge. Flash, volume 3, numéro 7. Scénario de Jeff Jones, dessin et ancrage de Scott Collins, qui remplace Francis Manapul pour cet épisode. Alors, c'est un épisode où l'on ne voit pas Flash du tout.
Oui, donc puisque ça, c'est un épisode autour d'un ennemi, en fait.
C'est Captain Boomerang qui est la star du numéro. Et alors, j'étais un peu perplexe au début, je me suis dit, bon, Captain Boomerang, moi, ça, c'est ce qui m'a attiré. Je me suis dit, Captain Boomerang, voilà, dans l'épisode, bon, on va enfin en savoir peut-être un peu plus sur ce qu'il fait depuis son retour, depuis Brightest Day, quoi. Parce que bon, il a quand même un petit peu servi à rien jusqu'à présent. Et j'étais un petit peu surpris du fait qu'il n'y ait pas Flash, mais je dois dire que Jeff Jones est un gros enfoiré, puisqu'il réussit à te faire t'intéresser à un personnage aussi pourri, dans le sens moral du terme, que Captain Boomerang.
Mais Jeff Jones,
pour ça.
Jeff Jones avait déjà fait toute une série d'épisodes centrés autour des méchants, des Rogues dans le précédent volume de Flash.
Oui, bah oui, bien sûr. Et là, en fait, il nous refait l'origine de Captain Boomerang. C'est vraiment Captain Boomerang Secret Origins. Ça pourrait être le titre de cet épisode.
Ouais.
Captain Boomerang, en fait, va essayer de s'infiltrer en fait dans la prison Iron Heights, la prison où tous les criminels de Flash sont enfermés, pour aller discuter avec un certain ennemi de Flash. Je vais vous la faire courte, c'est The Reverse Flash, bien évidemment. Professeur Zoom.
Je m'en doutais, oui.
Donc il veut aller voir avec lui pour discuter de ses visions qu'il a, qui le poussent qui lui disent qu'il faudra qu'il lance le boomerang vers Dove,
oui.
Donc de Oaken Dove. Pour la tuer, c'est ce qu'il pense. Et il veut savoir si le Reverse Flash a eu des visions, qu'est-ce qu'il en pense, et vu qu'il est capable vu qu'il vient du 25e siècle, est-ce qu'il peut lui dire s'il y arrive dans le futur, enfin voilà, quoi, lui donner des prédictions en quelque sorte.
D'accord.
Bon, ça va pas forcément se passer comme il le voudrait, on s'en doute. Surtout qu'en plus, les autres Rogues dont il essaie de refaire partie depuis son retour ne peuvent pas saquer le Reverse Flash. Il le déteste. Et le fait qu'il aille le voir, il est obligé de le faire en secret par rapport à Captain Cole et des autres Rogues. Et bien sûr, tout ça va vers une révélation finale assez intéressante.
Ouais.
C'est vraiment un très très bon épisode. Donc on voit toute la jeunesse de ce gamin balader dans pas mal d'histoires assez sombres. Il y a aussi ce passage sur le Reverse Flash et ce qu'il lui révèle. Et puis cette fin, franchement, c'est véritablement un bail. Un épisode de Flash où il n'y a pas Flash, mais qui est tout aussi intéressant pour la suite, et puis même en tant qu'épisode solo, quoi. Donc vraiment, jetez-vous dessus, c'est une pure merveille. Okay. Et comme je dis, Jeff Jones est un enfoiré, puisqu'il arrive à te faire t'intéresser à des gros salauds comme Captain Boomerang, et même avoir limite un peu pitié pour eux. C'est quand même terrible.
Oui, bah j'imagine, oui. Bah si c'est fait comme il avait fait déjà sur tous les personnages des Rogues à l'époque, il avait vraiment écrit des trucs. C'était parmi les meilleurs épisodes qu'il ait pu écrire sur Flash, quoi.
C'est franchement très très bien mené. Puis en plus, ça permet de revoir Scott Collins sur Flash, puisque c'était avec lui qu'il avait fait une grosse partie de son run sur le volume 2. Voilà, Scott Collins qui va toujours bien l'univers de Flash. Ça change de Francis Manapul, mais ça reste très beau, quand même. Donc, un bail.
Ok, eh bien, je vais poursuivre avec un truc qui n'a rien à voir. On va passer chez Delindé, avec du Image, et le premier numéro de 27. Alors, 27, déjà, faut savoir que j'ai eu du mal à le trouver, puisque ça s'est très très bien vendu. En fait, c'est déjà les précommandes annonçaient que ça allait être difficile de le choper. Donc j'ai réussi à le choper et c'est. Alors, faut partir du postulat que il y a énormément de chanteurs de rock qui ont disparu à l'âge de 27 ans. Kurt Cobain, Morrison, etc. Donc je ne ferai pas la blague sur Morrison cette fois-ci, puisque justement, là, je me gourre pas, c'est le vrai Morrison.
J'attendais que si t'es avancé sur la blague pour essayer peut-être de rebondir.
Non, je pensais que je t'avais perdu du coup. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait eu une coupure.
Ça peut être un scénariste de comics, comme ça peut être un catcheur.
Non, voilà. Ouais. Bref, voilà. Donc, du coup, là, le personnage principal, Will Garland, qui au fait est un chanteur de rock, une rock star super connue. Et qui du jour au lendemain en fait a un problème à la main et du coup ne peut plus jouer. Et
ça me rappelle ce qui est arrivé au chanteur guitariste de Megadeth.
Voilà, par exemple. Et à d'autres aussi ça a dû arriver, puisque ça a l'air d'être un truc assez assez récurrent dans ce milieu. Et du coup,
pour la petite anecdote, en fait, Dave Mustaine, donc le chanteur guitariste de Megadeth, avait pour habitude de dormir sur son bras, comme certains le font. Moi aussi je le fais, tu sais, tu dors appuyé sur ton bras, quoi.
Oui.
Mais ça te coupe un peu la circulation, jusqu'au jour où ça lui a vraiment coupé la circulation et il a perdu l'usage de son bras pendant très longtemps. Et à force de rééducation et de kiné et de volonté, il a réussi à reprendre la guitare. Et
c'est horrible ce que tu dis, parce que moi j'ai la phobie, tu sais, un jour de me réveiller avec le bras complètement ankylosé, ça m'est déjà arrivé. Mais donc c'est possible qu'on, même en dormant dessus, on peut effectivement se l'endommager.
C'est arrivé à Dave Mustaine.
Mais peut-être avait-il bu. Je dis ça parce que d'habitude on se réveille quand même. Donc peut-être qu'il était dans un état second et qu'il s'est pas réveillé à temps.
Tu sais, la fatigue des tournées aussi, oui. Joue énormément. Il n'y a pas forcément besoin de boire pour être vraiment claqué, quoi.
J'allais faire un jeu de mots horrible.
Non mais vas-y.
Non, j'allais dire la fatigue des tournantes aussi.
Sinon, c'était horrible, monsieur.
Non. Voilà. Alors, j'en profite pour donner les crédits, parce que je les ai pas donnés. 27, c'est un scénario de Charles Soul, on va dire en la française.
Je ne connais pas.
Parce que, non, moi non plus. Et Renzo Podesta au dessin. Alors, je ne connais absolument pas cette équipe. Mais, donc, je retourne à l'histoire. Le postulat...
C'est quand même une review sacrément décousue, mais c'est de ma faute.
C'est pas grave. Le postulat, c'est que donc, ce rocker, qui était une star, se retrouve du jour au lendemain un mec lambda, puisqu'il a son problème à la main, il ne peut plus jouer. Donc c'est la déchéance pour lui. Et un jour, il fait la rencontre d'un espèce de docteur un peu bizarre, qui lui propose de le guérir. Et alors effectivement, il est plus que bizarre ce docteur, puisque en gros, c'est un petit peu un pacte passé avec le diable. Puisque
un rocker, c'est cool.
Voilà, oui, donc, puisque le mec, on se rend compte très vite qu'il est très très space. Lui propose une expérience avec des chats. C'est assez assez décousu comme tu dis, parce que il faut le voir le truc, il faut le lire pour comprendre de quoi je parle. Et toujours est-il que notre ami se réveille assez perturbé avec une espèce de plastron, voilà, incrusté sur sa poitrine avec une espèce de bouton, comme s'il avait. Au début, je me suis dit, il lui a carrément greffé une une enceinte, tu vois, avec sur le pile.
Un ampli.
Ah non, voilà, un ampli. Et ben au fait non. Et alors il se rend compte que, par exemple, en tournant l'un des boutons, il retrouve l'usage de sa main. Alors il est super content, il recommence à jouer de la guitare comme un dieu. Il téléphone à un ami, il lui dit écoute, c'est bon, on peut repartir comme en 40, c'est la fête, je suis guéri.
Oh, mais je sens le piège.
Oui, il s'aperçoit vite que l'effet s'estompe très rapidement et ben, il se retrouve à nouveau sans l'usage de sa main. Et alors, il commence à trifouiller un petit peu parce qu'il y a divers boutons sur cet appareil qui lui a été greffé. Et il s'aperçoit vite fait que bah, ça provoque ça ou aucun effet ou des effets très bizarres. Et ben voilà, ben, c'est le début au fait de cette mini qui, pour le moment, est en 4. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres mini, en fait, 27? C'est fort possible, puisque, en plus, vu le succès de ce premier numéro, qui apparemment s'est vendu comme des petits pains, qui a retenu vraiment l'attention du public, des lecteurs, bah, ça fait que, à mon avis, on aura sans doute d'autres séries. C'est un petit peu comme Lock and Key, peut-être qu'on aura plusieurs mini-séries, quoi. 27.
C'est jamais,
ouais. Ouais. En tout cas, c'est à l'air d'être un joli succès. Alors c'est un truc, voilà, c'est blindé, quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus et franchement, non, j'ai pas été déçu. Voilà, c'est vraiment intriguant. Donc pour moi, c'est un bail. Et puis voilà, quoi. Je lirai la suite. Je vais voir où ça mène cette histoire. Voilà. Donc, non, vraiment une bonne surprise. Une bonne surprise, 27.
D'accord, très bien. Résolument, c'est le podcast du métal. Hein.
Ben oui, non,
entre,
mais voilà.
Entre 27 et puis le guitariste d'Anthrax.
Oui, oui. Non, mais, alors, de toute façon, je pense que les fans de métal, de musique même en général, enfin, même les joueurs de musique se reconnaîtront là-dedans, puisque ça doit être une grosse hantise d'un jour perdre ses moyens. Oui. Et ben,
je confirme.
Voilà.
Je confirme.
Voilà, voilà. Et donc, du coup, là, ça fait quand même rêver d'avoir une opportunité comme celle-là, bien que, évidemment, ce soit pas aussi comment dire bah justement je trouve plus le mot aussi enchanteur quoi que ça en a l'air évidemment il y a un piège quoi
comme tout pacte avec le diable hein.
Oui.
Peter Parker en a fait les frais le pauvre sa série est devenue de la merde oh, bah, ouais. Oh non je voulais pas le dire je me suis trompé pardon
ouais. De toute façon on verra on parlera de Peter Parker un de ces jours
peut-être ou peut-être pas on verra. Ouais, enfin si, on va en reparler, mais même tout de suite, puisque je vais passer à New Avengers numéro 7. Scénario de Brian Bendis, dessin de Stuart Timonen, dont c'est le dernier numéro. Il s'en va avec cet épisode pour un projet plus gros, qui devrait être annoncé la semaine prochaine, donc normalement, on devrait en parler dans le prochain Comics Weekly. Et à l'ancrage, Wade Funcraft Badger, donc la même équipe hein, que d'habitude. À savoir que le numéro 8 sera dessiné par Daniel Acuna, puis on aura... Oh non... Non.
Ah si si mais
tu l'avais fait en off et
oui non, l'autre fois tu l'avais pas entendu
si si mais j'avais montage. Voulu je n'avais pas voulu la
ah mais t'avais pas voulu
ouais, voilà et donc ensuite pour le prochain arc qui s'étalera du 9 au 13 on aura une histoire coupée en deux avec Mike Deodato et Howard Chaykin au dessin
voilà. Enfin une histoire en deux parties
ouais voilà donc ça sera un mélange assez étrange d'ailleurs chez Deodato Chaykin enfin ça va pas forcément bien ensemble mais sait-on jamais.
C'est vrai que oui, c'est vrai que là, maintenant que tu me le dis, oui, je visualise et ça va être assez space.
Au niveau du style, ouais, ça va être étrange. Donc, c'est un épisode où il ne se passe pas d'action du tout. C'est véritablement un épisode de discussion, c'est uniquement ça. Les New Avengers font le point.
Après, six épisodes d'action, six épisodes, enfin, lisez la review de Sam.
Après le passage sur sur cet œil d'Agamotto, sur le sacrifice de Docteur Voodoo, voilà, on essaye de repartir un petit peu de cette équipe-là. Et donc, il y a quand même tout un tas de sujets qui sont abordés dans ces dialogues. On a notamment, bah, que va-t-il advenir de Doctor Strange ? D'échecs, oui. Car les New Avengers sont payés par Steve Rogers, ce qui apporte son lot de discussions là aussi. Luke Cage étant contre, certains autres étant pour, et bien sûr, le pauvre Peter Parker, personne connaissant son identité, on peut pas lui faire de chèque, ça pose quelques soucis. Enfin, bref, vous verrez.
Il l'a redonné depuis.
Il l'a donné, mais pas à Steve Rogers, et pas au gouvernement.
Ah, Steve Rogers ne le sait pas.
Steve Rogers, non, ne le sait pas. C'était que les New Avengers qui le savaient. Et Steve Rogers n'était pas encore revenu.
Ils le disent pas à Steve Rogers. Ils
Ah
lui
bah
font pas
non, ils lui ont pas
confiance.
dit. Ah bah si Spider-Man, je veux dire Superman, si Spider-Man ne veut pas en parler, libre à lui. Je pense que ses coéquipiers sont assez malins pour le laisser décider d'à qui il doit le dire ou non, quoi.
Ah, je trouve ça... Non, mais moi je trouve ça étonnant qu'il fasse pas confiance à Steve Rogers.
Moi, je trouve ça bien géré, tu vois. Peut-être qu'il lui fera confiance par la suite, mais en tout cas, dans ce numéro-là, pour le moment, c'est pas le cas. On a aussi la recherche d'une nounou pour le bébé de Luke Cage et Jessica Jones. Et quelle nounou, hein. Quelle nounou. Je vous laisse découvrir qui c'est. On a quand même tout
C'est
un
pas Victoria
casting.
Hens, je dis au hasard.
Non, du tout. Non, parce
D'accord.
qu'elle fait partie de l'équipe, puisqu'elle a été nommée par Steve Rogers pour
Oui,
être
puis en plus, non mais ça aurait été
cérémonie.
drôle qu'elles doivent s'occuper du bébé alors que tu sais très bien que Luke Cage et Jessica Jones ne la portent pas dans son cœur, dans leur cœur.
Alors par contre, on a une excellente joute verbale entre Spider-Man et Victoria End sur Norman Osborn, bien évidemment, très intéressante aussi. Je reviens vite fait sur cette histoire de nounou. Quand même, on a une double page avec plein, 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 plein de personnages, certains qu'on n'a pas vus depuis des années, qui viennent à l'annonce du fait qu'ils recherchent une nounou. Et à qui ils demandent de garder le bébé, quoi. Alors certains sont déçus parce qu'ils pensaient qu'on leur proposait de rejoindre les Avengers, et en fait non, c'était juste pour un poste de nounou. Certains sont offusqués, d'autres sont vraiment pathétiques au point de s'il vous plaît prenez-moi, j'en ai besoin.
Ouais.
Je vous laisse découvrir qui c'est. Il y a quand même certains personnages, il a été les chercher loin.
La chose.
Mais non, la chose est dans l'équipe.
Ah oui, donc c'est forcément quelqu'un en dehors de l'équipe.
Ah mais il y en a plusieurs, hein, quand même, qui sont assez pathétiques et qu'il fallait aller trouver.
Ah, ça m'a l'air marrant, quoi. Ça me donne envie de le lire.
C'est vraiment sympathique. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses, même s'il se passe rien en apparence. Tout est dans les dialogues, bien évidemment, et c'est très très bon. Là où je me pose quelques questions quand même, c'est que c'est un épisode qui finalement n'avance pas, puisqu'il se passe. Pardon, j'ai la voix qui se barre en couille. C'est un épisode qui n'avance pas, puisque bah, il n'y a pas d'action, il se passe pas énormément de temps dans le comique, mais c'est là où l'histoire finalement avance le plus. Donc c'est ça qui est quand même terrible, c'est-à-dire que Bendis nous fait un arc en 6 sur une espèce d'histoire où le monde a failli exploser, a failli être détruit par un Gamoto. Il a décompressé ça au maximum, il en a fait un arc en 6, alors qu'en 4, je pense que ça pouvait être gérable. On n'a toujours pas d'explication sur Iron Fist et son nouveau costume blanc, par contre, hein, ça reste ma complainte, mais bref, on verra bien. Mais là, les choses ont bien avancé pour les personnages. Il y a des nouveaux membres dans l'équipe, il y a une nouvelle nounou, enfin, on voit que les personnages évoluent un petit peu, quoi. En tout cas, au sein de cette équipe-là. Donc c'est ça qui est, pour moi, je me pose la question quand même de, Bendis ferait peut-être mieux d'écrire des épisodes calmes et non pas des grosses histoires où ça pète dans tous les
Bah,
sens,
de
puisque
toute façon,
finalement,
il est
c'est quand même
meilleur,
là où il est le meilleur. Ouais, voilà.
il est meilleur dialoguiste qu'il n'est scénariste, j'ai envie de dire, malheureusement.
Voilà.
C'est-à-dire que ses idées, c'est un petit peu toujours les mêmes. Quand ils affrontent pas des forces mystiques, ils affrontent les soldats de The Hood, etc. Et à force, ça tourne en rond. Alors que
Mais
les épisodes
justement,
les plus sympathiques, c'est quand même les épisodes à dialogue, quoi, comme tu dis.
il en parle aussi un petit peu de ce combat permanent contre les forces mystiques. Voilà, enfin, je vous laisse découvrir ça dans
Il
l'épisode.
s'auto-parodie, quoi. Non? Il
Ouais,
s'auto-critique.
vaguement, un petit peu, quoi. Chose marrante aussi, on a quand même une apparition du Damage Control. Ça, c'est
Alors,
assez drôle.
rappelle-moi le damage
Le
control.
Damage Control, c'est ceux qui viennent déblayer après que les super-héros aient
Ah
foutu le
oui,
bordel partout.
d'accord.
Donc, et on sent que la chef du Damage Control a eu une histoire avec Luke Cage, donc ça c'est assez drôle aussi. Il y a vraiment des très très bons passages, pour moi c'est vraiment un bail, c'est un très très bon épisode. J'espère que ça continue comme ça. Malheureusement, le thème du prochain arc, donc celui qui se passe du 9 au 13, m'a l'air assez chiant, donc voilà. Bon, le prochain est un stand-alone, on verra bien. Et vu que c'est Daniel Acuna,
Ah, c'est
peut-être
ça.
va-t-on aborder Iron Fist. Peut-être. Et ce changement de costume, qui me perturbe. Ça fait quand même 4, 3, 4 épisodes qu'il a changé de costume et personne n'a fait une remarque.
En même
Voilà,
temps,
donc un
voilà.
bail. Franchement, jetez-vous dessus, c'est pour le moment le meilleur épisode de la série que j'ai pu lire. Ah, si, petite complainte quand même. Je n'aime pas ce que Bendis fait de Wolverine. Il en fait un espèce de pseudo-bouffon. Pas dans le sens bouffon vert, hein, bien évidemment. Un personnage assez ridicule qui passe son temps à manger et à se prendre les vannes des autres. Et voilà, c'est un petit peu ridicule à mon goût.
Un petit glouton.
Bah, exactement, voilà.
Un petit Steve, quoi.
Oh non, je ne passe pas mon temps à manger, ça c'est toi.
Non,
Tu
non.
manges toutes les 2 heures, sinon tu as des soucis de santé. Nos longues soirées sur Skype sont là pour le prouver.
Oui, mais ça ne prouve rien, les soirées sur Skype. Parce que les soirées sur Skype, ça rend bizarre. Bon, enfin bref.
Ça creuse, c'est ça.
Oui, oui, enfin, n'importe
bref,
quoi.
Passons Allez. À la dernière review avant de trop en révéler sur notre intimité proche.
Voilà.
Proche, propre, je voulais dire. Oh, mais n'importe quoi.
Bon, Superboy numéro 2, par Jeff Lemire et...
Très bonne review, merci. À la semaine... Non, je déconne.
Mais on pourrait pratiquement dire ça, puisque que dire, si ce n'est que c'est aussi bon que le premier épisode, que c'est résolument avec un ton à la Invincible,
ah,
que...
C'est bon, ça.
Oui, voilà, donc c'est vraiment du super-héros adolescent avec énormément d'humour, énormément de gags, énormément de rebondissements, de... Enfin voilà, quoi. C'est vraiment un plaisir de lecture. Comic Book Resources lui avait mis 5 étoiles sur 5, au premier. Mm-hmm. Donc c'est stipulé sur la couverture, et tant mieux. Enfin, j'espère que cette série fonctionne et que les lecteurs vont lui faire un triomphe, parce que ça fait partie des nombreuses séries DC en ce moment qui sont très bonnes. Donc Superboy, j'espère qu'on l'aura en français, voilà, c'est dit. Ensuite, on continue avec le scénario quand même, hein. Parlons-en. Poison Ivy a débarqué à Smallville, et au fait, elle débarque, enfin elle fout un bordel déjà assez monstrueux, et elle débarque surtout pour demander de l'aide de Superboy, puisque soi-disant, ce n'est pas à cause d'elle qu'il y a des racines partout qui ont envahi la ville. Ça viendrait d'une certaine grange, donc ça vient pas de la grange des Kent, hein, je te le dis tout de suite. Non, parce que là, ce serait vraiment too much. Ça vient de la grange d'à côté. Non, je plaisante, je sais pas d'où elle vient cette grange, mais en tout cas, voilà, c'est dans le secteur. Et voilà, donc c'est très sympathique, les dialogues entre Poison Ivy et Superboy, avec un espèce de jeu de séduction qui s'installe forcément, puisqu'il y a Poison Ivy dans le lot, sont assez drôles. Et alors, il a toujours son sidekick. Alors, la seule complainte, voilà, c'est le sidekick, tu sais, le fameux Simon, là, le pote de Superboy, qui est vraiment, alors, un super MacGyver, c'est-à-dire le mec sait tout faire, par exemple, en un rien de temps, il arrive à analyser un échantillon tiré du parasite. Je veux bien, mais le mec est censé être un lycéen, quoi.
Oui, mais rappelle-toi, à l'époque, Superboy avait Lex Luthor, qui était aussi un génie, à Superboy Superman, quoi, je veux dire.
Oui, mais Lex Luthor, c'est Lex Luthor. Là, c'est vraiment... Enfin, là, il me fait penser à Chloé, quoi, de la série Smallville, c'est-à-dire la nana avec un Mac arrive à accéder au dossier du FBI, quoi. Donc, voilà. Donc, bon.
Qui sait, il y aura peut-être un retournement de situation ensuite. Peut-être ce Simon deviendra-t-il un génie maléfique, au même titre que l'explorateur.
Ouais,
un génie maléfique.
Peut-être. Moi, j'y ai cru déjà dès le second épisode. Je me suis dit, mais peut-être cache-t-il quelque chose. Bon, en fait, non. Hein. De toute façon, pour le moment, c'est toujours l'ami sympathique du super-héros. Et,
c'est l'ami Ricoré, donc.
Oh...
Ah bah c'est moi qui ouvre les portes cette fois-ci.
Oh là là, faut vraiment sortir le shotgun là, c'est pas possible.
Putain direct.
Ah oui, non mais toute la famille Ricoré, fallait les abattre. Bon, enfin bref. Donc, mais en tout cas, l'épisode est toujours aussi sympa. Je te dis moi, franchement, ça me fait penser à Invincible, donc c'est forcément un bail.
Même un gage de qualité, quoi.
Un gage de qualité, voilà. C'est vraiment Jeff Lemire qui a un style à la Kirkman, c'est-à-dire c'est très frais, c'est très bon, tout simplement.
Est-ce toujours aussi poétique ?
Poétique moins, non, moins poétique que le premier. Là, on est plus dans l'action, avec des gags un peu, parfois même un peu potaches, hein, puisqu'il y a Poison Ivy, donc il y a des allusions assez crues. Mais, donc j'irais pas jusqu'à dire que c'est poétique. Non, le seul point noir, c'est peut-être toujours par rapport au dessin, au fait, Pierre Gallo. Je crois que ça se pense comme ça.
Ou... Pierre Gallo, ouais, c'est ça.
Gallo. Qui nous fait... Alors, bon, les décors, dans l'ensemble, ça va, mais c'est surtout la tête, en fait, le faciès de Superboy, qui ressemble quelquefois un peu à un asiatique. Donc, c'est un peu bizarre, quoi.
Voilà. A-t-il corrigé le souci de lunettes que j'avais vu dans le premier épisode, qui était assez désagréable?
Ne le voit-on
peut-être pas dans son identité?
Voilà, là, on le voit sans lunettes durant tout l'épisode, puisqu'il est toujours en Superboy. C'est vraiment la continuité du premier épisode, c'est vraiment les heures qui suivent. Donc voilà, on en est vraiment... C'est vraiment de l'action, quoi, on s'ennuie pas. Et puis, bon, ça s'arrête toujours sur un petit cliffhanger sympa. Faut voir où ça va mener, mais en tout cas, on s'ennuie pas. Déjà deux numéros et beaucoup de choses qui s'y passent.
D'accord. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le lire. J'attendais en fait que tu fasses la review pour pas avoir aussi mon propre avis qui pourrait peut-être débarquer dans la review.
Ouais, mais tout ça pour dire que Superboy, Flash, Action Comics, Generation Lost, j'ai lu le dernier Generation Lost, qui est très très bon aussi. Enfin, j'en reparle un jour. Generation Lost, à ne pas manquer. Donc il y a énormément de titres d'ici qu'on n'aura pas forcément en français et qui sont excellents.
Ah bah Generation Lost, vous pouvez vous brosser, puisqu'apparemment ils vont sortir Brightest Day, mais pas Generation Lost. Donc, ouais. Alors à moins qu'ils nous le sortent dans un, je sais pas moi,
dans un e-book
quelconque, ouais. Generation Lost, filez vers les TPB quoi.
Parce que c'est excellent de toute façon. Et voilà, il y a énormément de titres d'ici qui sont très très bons en ce moment. Voilà. Bon, bah et ça termine cette valse de review aussi, cette salve de review.
Eh bien, avant de te laisser parler de ton mot de la fin,
ouais.
Et avant de rappeler comment on peut nous contacter, tu as parlé tout à l'heure de Point Noir, et vu que j'ai parlé de Ricoré, je vais aussi parler d'Eau Précieuse, qui t'a ouvert des portes, autant y aller à fond. Voilà, ça c'est fait, ça me travaillait depuis tout à l'heure, ça me travaillait. Hein,
bah, Biactol.
Voilà, au Biactol, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. Merci. Voilà, donc ça me travaillait depuis tout à l'heure, pendant toute ta review, quand t'as parlé de Point Noir, j'avais ce truc en tête, et j'attendais qu'une chose, c'est pouvoir le sortir sans te couper. Quand même, c'est pas très poli. Bref, donc, pour nous contacter et nous vanner à propos de nos vannes, oui, je fais des répétitions, j'aime ça, vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site, hein, bien évidemment, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr ou encore vous pouvez nous laisser un petit message sur le répondeur, on vous diffusera à l'antenne, au 09 70 440 497, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, on ne mord pas, enfin, jusqu'à présent, sauf si on a faim. Mais Benny, il a faim toutes les deux heures, donc attention.
Oui, bien. Alors, je vais passer au mot de la fin. Alors, le mot de la fin, tu vois, c'est du grand art. À la base, en fait, faut quand même le préciser aux gens, je devais faire la review solo de Detective Comics Annual 27, je crois que c'est.
Donc, non, numéro 12.
Ah, c'est simplement le 12e annual Detective Comics, c'est bien, très bien, ouais. Autant pour moi. Donc, Detective Comics Annual 12, je devais faire la review, le scénario est de David Hein, les dessins de je ne sais plus. C'est très bien, c'est très bon.
C'est un très bon artiste que j'aime beaucoup. Je suis voilà. Son travail avec beaucoup d'intérêt.
Non mais c'est surtout pour le scénario de David Hein que finalement je n'ai pas fait cette double review. C'est au fait, grosso modo, c'est Batman qui, dans son voyage All Over the World, va à Paris pour essayer de recruter un Batman français, on va dire, hein, comme c'est le thème de Batman Inc. un petit peu. Et alors déjà, le Batman français, c'est une sorte de Yamakasi, enfin bon. Vraiment avec les origines à la Yamakasi quoi. Et David Hein a des espèces de je sais pas des espèces de clichés sur la France qui sont assez drôles au fait. C'est un petit peu les émeutes de 2005 mais comme si elles ne s'étaient jamais terminées quoi. Donc c'est une espèce de
c'est la guerre civile chez nous, on le sait bien. Hein.
Voilà, c'est un petit peu une ambiance de guerre civile avec des personnages qui ont des noms toujours des noms bien bien français hein, du style Bayard etc. quoi. Et puis il y a des espèces.
C'est pas comme s'il était à Lille pour prouver que c'était plus la guerre, mais bon.
Oui, voilà, exactement. Donc je sais pas. Non mais il a dû écrire ça avant de venir à Lille quand même.
Oui, ça va être ça,
Oui, forcément, de toute façon. Mais tout ça pour dire que la phrase de la citation finale que j'aimerais faire, c'est tiré de ce numéro-là. Alors il y en a plein. On pourra en prendre plein parce qu'il y a tellement de fautes de français et de citations marrantes. Non mais franchement c'est très drôle. Franchement faut le lire, c'est très drôle. Voilà, si vous voulez rire, lisez ce Detective Comics Annual numéro 1. Peut-être que la partie 2 sera aussi drôle, ce sera dans Batman. Ouais,
je sais pas si elle sera. 28, je crois.
Et est-ce qu'elle sera de David Hein par contre ?
Je ne sais pas.
Bon.
Je ne sais pas.
En tout cas, là-dedans, à un moment, il y a un espèce de haut dignitaire je ne sais quel pays arabe, au fait, puisque je pense qu'il est même pas nommé, mais enfin qu'importe, quoi, c'est peut-être un pays même fictif, mais qui vient en France et qui visite les catacombes. Car c'est toujours sympathique de visiter les catacombes quand on vient en France.
Il y en a qui visitent le Louvre, d'autres les catacombes.
Voilà. Et alors. Il y a une espèce de grosse banderole au fait au-dessus de l'entrée des catacombes où normalement en fait en anglais ils voulaient marquer Stop Here is the Empire of Death et au fait ils l'ont marqué en français par Arrête c'est ici l'Empire de la Mort. Et alors attends le pire de tout c'est que Arrête point d'exclamation c'est ici en un seul mot c'est ici l'Empire de la Mort.
Bah, c'est voilà. Comme ça que ça s'écrit enfin.
Mais oui bien sûr c'est du latin. L'empaleur de la mortée, bien sûr. Non mais c'est, ça m'a fait vraiment éclater de rire. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est et puis bon, il y a plein d'autres trucs comme ça. Par exemple, à un moment, il parle d'un chef d'un parti d'extrême droite qui s'appelle Nouvel Ordre. Alors c'est écrit Nouvel Ordre hein, directement en français. Claude Garnier, Claude Garnier, le nom bien français. Sinon, il y a Jean-Philippe Bayard qui était de l'Union populaire du Parti communiste français. Enfin.
Oh le cliché, putain,
c'est
marqué, c'est terrible.
Où c'est marqué, il a été tué d'ailleurs par un extrémiste et sur la
un coup de baïonnette. Un coup de baïonnette, non?
Non. Non,
parce que apparemment ça va avec les clichés.
Non, mais un extrémiste qui s'est donné la mort en se suicidant, en se coupant la gorge avec un coup de papier. bref. Et il y a une pancarte, c'est marqué le révolution, le socialisme. Non, enfin, écoute, il y a tellement de trucs qui sont... Enfin, j'étais mort de rire, quoi. C'est une espèce de remake de Banlieue 13 avec Batman, quoi. Voilà.
Ouais, moi, ça me donne pas du tout envie.
Mais... Ah non, si, il faut le lire. C'est excellent. Non. Enfin, c'est un très grand moment d'humour par David Hein, donc profitons-en. Remarque, bon, j'ai lu une review sur Comic Box, au fait, où Xavier Fournier disait que chez Marvel, ils avaient bien l'AIM, l'Hydra, etc. Et c'est vrai que, bon, aux États-Unis, ça choque pas. Alors nous, pourquoi on n'aurait pas des partis fictifs d'extrême droite chez nous, quoi, à la rigueur, pourquoi pas?
Non, c'est pas ça qui me gêne, moi.
Mais ah oui, Pierre Le Boucher, un raciste fasciste.
Ouais.
Un ancien ami de Jacques Bonnard, je te cite là ce que je suis en train de lire sur le comics, mais non, c'est énorme. Franchement, c'est voilà, bon, du bon vieux cliché, pas anti-français, mais bon, on voit que ils ont une vision un petit peu tronquée au fait de la France, quand même.
Un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup même.
Ouais. Bon allez.
Bon bah voilà. C'est sur ces bons mots hein, oui. Que l'on se quitte et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Comics Weekly.
Oui, on va le dire comme ça.
À le prochain fois.
Ah oui, à le prochain fois, Montparnasse, bienvenue. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave.